superbe musique, très agréable. On revient donc à ce que nous disions, c'était comment peut-on s'affirmer, comment peut-on se faire respecter sans violence à l'autre, et en n'acceptant plus la violence à soi-même, parce que ne pas se faire respecter, c'est se laisser aller à la violence sur soi. Comment peut-on faire? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a un moyen ou plusieurs moyens pour éviter ça?
Eh bien, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure et que je n'ai pas terminé. En fait, il y a une différence entre la force et la violence. Et effectivement, en communication non violente, donc, mais bon, je ne sais pas tout développer ici, mais apprendre à se connecter à ses sentiments et surtout à ses besoins, à ses aspirations, me permet alors d'exprimer ça après à mon interlocuteur. Et je vais l'exprimer avec beaucoup de bienveillance. Je ne suis pas obligée de l'engueuler pour ça. Je vais juste dire, écoute, moi, j'aspire vraiment à de la considération, j'aspire vraiment à de la confiance. Pour moi, c'est quelque chose de super important. On va en parler entre nous, hein, l'interlocuteur et moi. Et ça demande beaucoup de force, en fait, de pouvoir faire ça. C'est là qu'il y a cette confusion entre force et violence. Parce qu'en fait, être violent, c'est très facile. Moi, je trouve que ce n'est pas très compliqué. C'est à portée de tout le monde. Les petits-enfants nous montrent ça. À 2 ans, je peux déjà prendre ma pelle et taper sur la tête de mon voisin ou mon petit seau sur la plage et lui enfoncer le râteau dans le crâne. Il n'y a pas de souci. Et à tout âge, on peut être violent, hurler, taper. C'est facile. Par contre, faire ce travail de m'arrêter quand je sens que je m'énerve ou que j'ai un jugement qui vient, d'aller m'écouter, de passer cette barrière qui souvent existent puisque nous avons appris à nous couper de nos émotions parce que la plupart d'entre elles sont socialement inacceptables. Donc déjà de me reconnecter à mes émotions, d'aller voir quel est le besoin qui engendre mon émotion. Ça, c'est déjà un premier travail qui demande beaucoup de force, beaucoup de confiance en soi et de prendre ce temps-là. Et puis, exprimer ça à mon interlocuteur, mais ça demande encore plus de force parce que souvent j'ai peur. Oh, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais me montrer vulnérable. Et il y a une confusion aussi entre vulnérabilité et faiblesse. Or, c'est une force d'oser se montrer vulnérable, d'oser dire, écoute, moi là, je suis vraiment triste parce que j'avais besoin de confiance ou besoin de tendresse, même que sais-je, moi, en fonction des situations. J'ose le dire, donc j'ose aussi affronter la réaction de mon interlocuteur. Qu'est-ce qui m'empêche généralement de m'exprimer? C'est que j'ai peur de la réaction. Soit je me dis, oh, il va en profiter pour entrer dans la brèche et il va me démolir. Soit il va hurler et je vais pas arriver à gérer. Ok, mais il y a des peurs. Et c'est d'oser affronter ces peurs-là. Donc ça demande beaucoup de force, dans le sens beaucoup de confiance. Confiance en soi, confiance en l'autre. Et puis tout ça, donc d'être bien campé sur mes deux pieds, d'affirmer ce que je vis et ce que je ressens, tout en restant, et ça demande encore plus de force, tout en restant dans l'ouverture et la bienveillance vis-à-vis de l'autre et de sa réaction. Et d'arriver à rester connecté alors à ce que lui vit, au-delà des mots parfois très inconfortables, voire très inaudibles qu'il va prononcer. Et donc pour moi, ça demande une force colossale qui n'est pas du tout la violence qu'on prône la plupart du temps et qu'on confond avec de la force. C'est de cette force-là, moi, dont je parle. Et donc, voilà. Et si je suis bien alignée, bien campée sur mes deux pieds, en lien avec mes émotions et mes besoins, alors je vais poser des actes qui sont cohérents par rapport à ce qui est juste pour moi, qui sont respectueux de moi. C'est pas contre l'autre, c'est juste respectueux de moi.
Ça implique que je sois d'abord en paix avec moi-même aussi?
Oui, ou en tout cas à l'écoute de moi et tout en restant dans l'ouverture par rapport à la réaction de l'autre. Parce que le piège alors aussi, c'est, imaginons, je vais me dire, ben, voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui, moi, par exemple, je ne sais pas moi, je ne vais plus faire tous les repas. Je vais demander à mes enfants de contribuer. Imaginons, j'ai 3 enfants, et bien je vais leur demander au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine de faire les repas. Voilà. Et puis, voilà que les enfants rechignent à le faire, ou bien ils n'y arrivent pas. Le piège, c'est de retomber dans ce que je faisais avant, de recommencer à faire les repas moi-même tous. Alors, je vais les faire avec ressentiment, je vais de nouveau m'épuiser, etc. Mais pour préserver l'équilibre du système et éviter la confrontation, je reviens. Mais là, je ne suis pas juste avec moi. Je ne suis pas alignée, je me suis quittée en cours de route. Vous voyez, il y a une chanson de Zazie d'ailleurs qui parle de ça et qui dit « Je me lâche la main ». Et l'idée, c'est ça, j'aime bien cette chanson, c'est de rester en lien avec soi, en fait. De ne pas se lâcher en cours de route, de continuer à se respecter sans que ce ne soit agressif vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas contre l'autre, en fait. Moi, maintenant, il m'arrive, par exemple, de dire, j'ai dit à mon fils, voilà, il y a des moments où je suis disposée à te conduire à tes activités, mais en même temps, j'aimerais que tu me préviennes un minimum de temps à l'avance. C'est pas 2 semaines, hein, ça peut être 24 heures ou parfois même moins. Mais si 10 minutes avant un rendez-vous, il me dit, ah, maman, il faut me conduire. Ben, moi, dans ces conditions-là, c'est clair et c'est pas contre lui et c'est pas, je suis pas fâchée, mais je ne le conduis pas. Et donc, il y a quelque chose aussi qui est beaucoup plus recevable. Moi, j'observe ça, c'est beaucoup plus recevable pour mon interlocuteur. Si je suis juste dans la confiance que c'est, voilà, c'est comme ça, c'est ma limite. Mais bon, c'est à vivre, hein, c'est difficile de l'expliquer.
Dans ce cas précis, justement, de l'enfant qui demande à sa mère de le conduire 10 minutes avant et que vous lui dites non, on est toujours dans la communication non violente
ou c'est autre chose? Oui, pour moi, oui, tout à fait. Il me fait une demande, c'est pas une exigence. Okay. Alors après, s'il tempête, qu'il s'énerve, oui, mais ben, c'est pas grave. Mais moi, j'ai entendu une demande, et pour moi, ça n'est. Il y a plein de raisons. C'est si je suis disponible et disposée à le faire, je le ferai. Et en même temps, vous voyez, si c'est une fois exceptionnellement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est quasi permanent, que c'est 10 minutes avant, ça devient alors quelque chose. C'est moi qui permets que l'autre ne me respecte pas. Vous voyez, si je suis une personne qui on peut me décrocher comme ça du porte-manteau à tout moment pour n'importe quoi. C'est mon problème, hein, si je me décroche, si je suis décrochable. Moi, je dis souvent aussi aux personnes, imaginons, vous avez le choix, vous avez un service à demander, et vous savez que si vous demandez à Christophe, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il vous dise non. Si vous me le demandez à moi, il y a 9 chances sur 10 pour que je vous dise oui. Ben, vous allez demander à qui d'abord? Ah bon. Ben oui, c'est humain. Je vais pas me compliquer la vie, donc je vais d'abord aller demander à la personne qui a tendance à dire oui. Si après, au bout de 95, oui, cette personne-là me dit oui, mais j'en ai marre, hein, c'est toujours à moi qu'on demande, on ne me respecte pas ici. Mais moi, mon intention, c'est pas de pas respecter la personne. Je lui demande, elle me dit oui, c'est sa responsabilité à elle de dire oui. Donc, nous sommes responsables des limites que nous mettons et de la satisfaction de ce besoin de respect aussi. Moi, j'aime bien me poser la question, si l'autre ne me respecte pas, pourquoi est-ce que moi, je me respecte? Est-ce que moi, je mets des limites? Est-ce que moi, je m'octroie des temps de repos, des temps de détente, un équilibre, etc.? Souvent, la réponse est non.
Cette communication non violente est à géométrie variable suivant la personne qu'on a devant soi, évidemment.
Que voulez-vous dire
par là ? Je veux dire, c'est évolutif, ça dépend, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas une méthode figée, ça dépend de la personne.
Ah, c'est une méthode, c'est la vie.
Il y a une partie de psychologie qui rentre en ligne de compte. Suivant l'âge, la personne qu'on connaît.
Non, pas nécessairement. Alors, souvent on me dit, oui, mais les mots sont compliqués, besoin de reconnaissance, machin, un petit enfant ne va pas comprendre. Alors, oui, l'enfant ne va pas comprendre le mot, mais c'est pas grave, on s'en fiche, puisqu'on a dit, il y a 7% de mots dans la communication. Ce que l'enfant va percevoir, c'est l'intention. Moi, l'être humain le plus jeune avec lequel j'ai pratiqué la CNV, c'est un bébé de 3 semaines. Ouais. Je ne l'ai pas fait exprès, en fait. Je rendais visite à des amis qui venaient d'avoir un petit garçon. Et alors, je vais vers le bébé. Les parents venaient de me raconter qu'ils avaient quitté la chambre de ils s'étaient installés dans la chambre de l'enfant pour des raisons X. Et alors, en blaguant, je dis au bébé, oh, et papa et maman sont venus dans ta chambre. Dis donc, tu dois avoir besoin d'intimité, de ton espace, etc. Mais je le faisais vraiment pour un peu pour rire, pour tester. Enfin, je pensais pas du tout. Et les yeux de ce bébé se sont agrandis. Donc, je sais pas du tout ce qu'il a perçu, mais c'est certain qu'il y a quelque chose qui est passé. Et c'est très amusant, c'est un peu anecdotique, mais les parents là-dessus, le lendemain, m'ont appelé, m'ont dit, écoute, en voyant la réaction de notre petit garçon, on est retourné dans notre chambre. C'était vraiment comique, en fait.
Ah ouais.
Mais donc, il y avait un impact. C'est une certitude. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui est passé. Donc, ne vous préoccupez pas des mots. Même, il y a moyen de pratiquer. Déjà, on peut aussi, je disais tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire que la personne connaisse la communication non violente pour que moi je la pratique. Je peux donner de l'écoute à quelqu'un, être, comme on dit dans notre jargon, en empathie avec la personne. L'empathie, c'est un synonyme d'écoute. J'essaie de me mettre un peu dans les baskets de l'autre. Je peux très bien être en empathie avec quelqu'un sans rien dire et sans que la personne ne le sache. Dans ma tête, je suis en train de me dire, oh là là, il hurle, sans doute il est énervé parce qu'il a besoin justement de respect ou il a besoin de compréhension. Je n'ai rien dit, mais l'énergie qui émane de moi, elle sera différente que si je suis en train de me dire, mais c'est qui ce fou qui va me trucider, ou ça c'est différent, ça passe. Donc c'est très subtil, en fait. C'est pour ça que c'est un art de vivre, pas une technique. Les mots ne suffisent pas, tout ce qu'il y a derrière, c'est vraiment notre attention.
On va faire une petite pause musicale. La musique adoucit les mœurs. Donc on va se permettre de passer quelques notes de musique, toujours au choix de notre ami Christophe. Christophe Maestro, quand vous voulez.